France Culture. Abdelatif Lahabi, bonjour.
Bonjour.
Pour ce troisième temps de nos avoies nues, on va aborder un temps qui fut pour vous difficile, même si je ne vais pas vous demander de raconter les choses terribles que vous avez endurées pendant 8 ans et demi, que vous avez passé en prison, enfermé à la prison de sinistre réputation Kenitra. Vous étiez enregistré sous le numéro 18611. Entre 1972 et 1973, déjà, vous passez des mois intenses. D'abord dans votre vie privée, puisque votre troisième enfant, né en 1972, juste dans l'intervalle où vous étiez dans l'attente d'une deuxième inculpation, Kotz. Et vous aviez déjà deux enfants, Yassine, né en 1965, et Hind, né en 1966. Et puis au moment de votre procès, en 1973... Le procès, je crois, a eu lieu en août, et c'est le mois de la mort de votre mère, Rita.
Oui.
Donc déjà, années 72, années 73, intense. Et puis ensuite, l'enfermement, la condamnation à 10 ans de prison. Vous écrivez vite, vous écrivez tôt, vous écrivez dès la prison civile de Casablanca en 1972. L'arbre de fer fleuri date de cette époque-là. Le deuxième recueil, c'est 1975, sous le bâillon, le poème. Vous écrivez alors que vous êtes à l'isolement pendant 4 mois. Ça veut dire que vous pouviez écrire, vous aviez au moins ce petit droit-là d'avoir un papier et un stylo?
Pas tout de suite. Il a fallu de longs mois pour qu'on puisse avoir un crayon et de quoi écrire, c'est-à-dire des papiers. Ensuite, il fallait cacher tout cela. Parce qu'il y avait des fouilles, et donc on pouvait écrire, et puis bon, malheureusement, les écrits disparaissaient. Moi, j'ai eu la chance de faire passer clandestinement mon premier recueil, qui s'intitule « L'arbre de fer fleuri », grâce à un de mes avocats, qui était un grand monsieur, un des grands dirigeants du parti de l'Istiqlal, justement, qui réclamait l'indépendance. Donc, alors qu'il n'était même pas du même bord politique, il a eu le courage et de sortir ce texte qui est paru chez Jean-Pierre Oswald très vite. Donc, ça a été une bataille, le fait de pouvoir disposer de quoi écrire et surtout sortir clandestinement les écrits, ça n'a pas été facile. J'ai perdu, pendant cette période et même après, certains textes, parce qu'il y a eu des fouilles et on les a découverts, et puis bon, ils ont été perdus à jamais. Mais bon, pour moi, ça a été vraiment une bouée de sauvetage. C'était pour moi vital que de pouvoir continuer à écrire. Mais en même temps, comme... J'ai eu l'occasion de le dire, de l'écrire. J'ai eu l'impression que le statut même de l'écriture avait changé. Je n'écrivais plus pour les mêmes raisons. On a évoqué certaines raisons d'écrire dans nos propos antérieurs. Mais en prison, j'avais un autre sentiment. C'est-à-dire, et c'était ça aussi le danger et la nature particulièrement perverse du système que nous avions à confronter, le fait d'être condamné, d'être en prison, ou même d'être condamné à tant d'années de prison, ne voulait pas dire que vous alliez être libéré un jour. Vous pouviez rester ad vitam aeternam, ou bien on trouvait un prétexte pour vous éliminer, tout simplement, si on considérait que vous représentiez un danger extrême pour le régime. Donc, je le dis là très franchement, c'est pas moi j'ai horreur de m'étendre sur ce sujet, mais j'ai vécu pendant toute la période de mon incarcération dans l'idée, dans l'angoisse aussi, de ne jamais pouvoir revoir la lumière du jour. Ça, c'est évident. Donc, l'écriture, c'était ce que j'appelais chaque fois des attestations de vie. J'écris, donc je vis. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant, c'est-à-dire que je fonctionne, mon corps est là, mon esprit, je n'ai pas... toutes mes facultés sont encore présentes. Mais en même temps, je contourne, disons, la machine infernale du système. C'est-à-dire, emprisonner quelqu'un dans ce contexte qui était le nôtre à l'époque, c'était surtout le couper, c'est-à-dire le couper du monde. Le couper de non seulement de ceux, des personnes auxquelles il tenait, qu'il aimait, tout cela, mais donc l'environnement immédiat, mais dans l'environnement social, du monde. Par conséquent, c'est comme si on coupait toutes vos antennes. Et on vous réduisait à un corps qui n'avait plus de possibilité de communiquer. Et donc, l'écriture, ça a été justement cette capacité, justement, de briser ce cercle infernal. Non seulement de dire, je suis vivant, je ne baisse pas la tête, je reste debout, mais aussi, j'arrive à communiquer avec les êtres les plus chers, ma compagne en premier lieu, mes enfants, mais aussi avec tous ceux qui pouvaient entendre mon cri. Voilà quelle fut la fonction de l'écriture. Et donc ça a une implication sur la façon d'écrire aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans mes écrits antérieurs, je ne me souciais pas tellement de celui qui allait me recevoir. J'avais des comptes à régler avec moi-même, avec le monde. Le cri dans sa nudité totale, c'était ça l'enjeu. Il fallait que je me libère de mes démons. Et donc, la question de la réception même ne m'intéressait pas. En prison, c'était autre chose. J'avais besoin, justement, de communiquer. De dire, oui, je suis là, j'existe, je vis. Et parfois, je peux aider. Quand je pense à l'échange épistolaire que nous avons eu, Jocelyne et moi, pendant des années et des années, bien sûr, il y avait toutes sortes d'états d'âme, d'esprit qu'on exprimait. La façon dont nos liens ont évolué, notre amour a grandi, tout cela. Mais parfois, je comprenais que Jocelyne puisse avoir plus de difficultés que moi, qui était en prison. Parce que, à l'extérieur, le fait de vivre sans moi, avec trois enfants à charge, et ne gagner pas des cent et des mille à l'époque, tout cela, l'absence, les frustrations, tout cela, ça pouvait aussi toucher son moral. Donc, il y avait les enfants aussi. Il fallait leur expliquer un petit peu pour qu'ils ne soient pas dans l'incompréhension totale de ce qui leur arrivait, de ce qui m'arrivait. Donc, j'essayais aussi de me rendre, oui, me rendre un peu utile. Parfois, il m'arrivait aussi de remonter le moral de Jocelyne, de remonter le moral d'un ami qui a pris fait et cause pour moi, qui a créé un comité international pour ma libération, Ghislain Ripaud, mais qui, lui, était un intellectuel, un écrivain, qui était un écorché vif, quelqu'un qui était un petit peu dans le désespoir de la cause humaine, en quelque sorte. Et il m'arrivait... Justement, de le soutenir lors de nos échanges. Bon, il y avait aussi cela.
18 février 1974, mon cher Ghislain. Ce que je fais ici, je lis beaucoup, littérature, philosophie, économie, sciences. Je vois Jocelyne deux fois par semaine, une visite d'une demi-heure. Mes enfants, une fois par mois environ. La promenade se fait deux fois par jour, dans une petite cour où il y a le soleil, un petit carré de terre, quelques plantes. Nous sommes en tout 27 personnes et je vis avec deux autres camarades dans la cellule. Je rêve beaucoup, nuit et jour. Je ne connais pas ce que l'on appelle l'ennui ni la tristesse. Et je ne saurais définir le bonheur qui est le mien quand je pense à ma compagne, aux hommes qui font l'histoire et à cette grande fête qui sera. C'est un extrait d'une lettre que vous avez donc écrite à cet ami Ghislain dans les chroniques de la citadelle d'exil, qui est cet échange épistolaire, notamment avec Jocelyne et avec vos enfants, pendant toutes ces années, puisque vous disiez que les poèmes, en partie, certains poèmes ont été perdus, certains écrits ont été perdus. Les lettres, en tout cas, elles sont bien là. Et elles témoignent, Abdelatif Lahabi, de votre vie quotidienne dans les geôles marocaines. Vous y parlez de tout, de la famille, de la littérature, du temps, du manque, du futur. On lit vraiment à quel point votre amour pour Jocelyne, votre amour pour les enfants ont été une planche de salut. À Jocelyne, vous dites que c'était l'espoir à portée du délire, par exemple. Et à Hind, votre fille, vous écrivez « Quand on s'aime beaucoup, on ne se sent jamais seul ou triste, on a des forces en soi pour toute la vie. »
Oui. Maintenant, j'ai envie d'ajouter que j'ai été invité récemment à la grande librairie. On m'a posé une question sur l'incarcération et j'ai répondu au monsieur qui animait l'émission. Je lui ai dit que le fait d'être en prison, c'était un honneur pour moi. Un honneur. Il était un petit peu interloqué. Et puis, ça m'est sorti comme ça. Pourquoi un honneur? Eh bien, le fait d'avoir été en prison, d'être en prison à cette époque-là, c'était important. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait un certain nombre d'hommes et de femmes qui étaient prêts à donner leur vie pour défendre leur dignité, pour défendre un certain nombre de principes. Donc, le sentiment, me suis jamais senti aussi digne que dans ces conditions-là. Parce que je sais que ce que je donnais chaque jour, je le versais à la dignité humaine. Voilà. Bien sûr, on ne sait pas de quoi est faite la matière humaine. Voilà un autre mystère, voilà une autre énigme. Pourquoi certains... Bon, la prison les détruit complètement. On a eu le cas d'un certain nombre de camarades qui ont perdu la raison. Et il fallait gérer cela aussi. Mais, bon, dans la plupart des cas, bon, ça s'est bien passé. Relativement bien passé. On a gardé notre unité, on a gardé le moral qu'il fallait pour revendiquer un certain nombre de choses sur les 8 ans et demi que j'ai passé personnellement, plus ceux qui sont restés après moi. Les combats qu'on a menés, avec des grèves de la faim, avec des pétitions, avec toutes les luttes que nos familles, notamment les femmes, sœurs, mères, grand-mères de prisonniers ont fait à l'extérieur de la prison pour qu'un certain nombre de droits nous soient garantis en tant que prisonniers politiques, eh bien ça a donné des résultats. Depuis l'époque, les prisonniers de droit commun bénéficient des fruits de notre combat. Il y a la presse qui entre, il y a les livres, il y a la télévision, il y a les visites privées. C'est-à-dire que des prisonniers qui sont mariés peuvent avoir droit, comme dans certains pays, à des moments d'intimité dans une chambre, par exemple. Tout ça s'est réalisé au Maroc, grâce à ces luttes qu'on a menées.
Ce qui est impressionnant, l'une des choses qui est impressionnante à lire dans les chroniques de la citadelle d'exil, votre échange épistolaire pendant ces 8 années et demie, c'est à quel point il n'est jamais question de votre désespoir. Vous parlez d'années pendant lesquelles vous avez été torturé, Abdelatif Lahabi. Vous racontez l'exiguïté, vous racontez les grèves de la faim, vous racontez les mises à l'isolement, vous racontez les 6 mois que vous avez passés dans le quartier des condamnés à mort, après avoir été accusé de vouloir vous évader. Vous en avez d'ailleurs tiré « Histoire des 7 crucifiés de l'espoir ». Mais vous parlez assez peu de la prison, c'est-à-dire vous parlez assez peu... Enfin, vous ne vous plaignez jamais. Vous préférez parler poésie avec votre fils. C'est comme si l'amour, encore une fois, pour Jocelyne, la présence des enfants, l'importance, effectivement, de parler littérature avec votre fils, et puis les combats, et puis l'écriture, faisaient que vous serriez les poings pour tenir bon.
Oui, mais imaginez que j'ai eu l'inverse de cette attitude-là. À quoi cela aurait-il servi? Et puis je savais très bien que mes lettres étaient lues et relues. Et parfois griffonnées, enfin, c'est-à-dire bon, on enlevait un tas de choses, certaines lettres arrivaient, caviardées à Jocelyne et aux enfants. Donc je voulais pas, c'est-à-dire pour moi c'était essentiel de ne pas leur donner la moindre satisfaction. Voilà, pour moi c'était un défi. Bien sûr, comment peut-on ne pas souffrir dans ces conditions-là, avec toutes les frustrations aussi, la frustration sexuelle par exemple. Je n'en parle jamais, jamais, mais elle était là, des deux côtés. Nous est arrivé d'être tabassé à l'intérieur de la prison. Je passe là-dessus. Pour moi, c'était un point d'honneur de ne pas leur donner la moindre possibilité de se dire « Ah bah tiens, voilà, bon, non ». C'est ce qui fait que, par exemple, bon, quand il m'est arrivé d'avoir des problèmes de santé graves et j'ai été hospitalisé, je suis resté quelques 2 mois, 3 mois sur les 8 années à l'hôpital. Bon, il y avait des policiers qui venaient me garder. Il y avait un système des 3-8, comme on dit. Et ces policiers m'ont connu, ont discuté, etc. Et j'ai eu les relations humaines les plus merveilleuses qui puissent exister avec ces policiers-là. L'un d'eux a eu la folie, le courage de me sortir de l'hôpital et d'aller en bord de mer pour que je puisse faire une petite promenade en bord de mer. Ça veut dire que dans un système aussi répressif, on trouve toujours de l'humain, de l'humanité. Même pendant, par exemple, les séances, les jours que j'ai passés où il y a eu la torture, tout cela, etc., on pouvait trouver des êtres humains, malgré tout. On pouvait trouver de vrais bourreaux, bien sûr, implacables, mais on pouvait trouver quelques... Ouais. Il m'est même arrivé, par exemple, un jour que quelqu'un, un gardien, vient toquer à ma porte, etc. Et puis, est-ce que vous me reconnaissez pas? Je dis, oh, ben, j'étais votre élève au lycée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà. Des choses lumineuses qui peuvent se produire. C'est-à-dire que, bon, c'est pas la prison. Je le dis quelque part, je sais pas, c'est pas la fin de la vie. Non, c'est aussi une des conditions humaines. Vous savez, quand ça dure, par exemple, quand ça dure, dans la tête, ça, on a l'impression que c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité. L'extérieur n'existe plus. C'est-à-dire, ma vie, c'est ça. Et pas autre chose. Donc, il faut s'organiser en fonction. De cela. La réalité, c'est celle que je vis. Le reste, c'est l'imaginaire.
La réalité et le rapport au temps. C'est-à-dire que vous écrivez à quel point le rapport au temps change. C'est un temps indivisible qui évolue par tranches d'émotions, de rêveries,
oui,
et de dialogues. Pas du tout en fonction des heures, du jour, de la nuit. Et d'ailleurs, vous écrivez même aussi que, paradoxalement, ça passe vite.
Oui.
Alors peut-être parce que vous écriviez beaucoup, vous lisiez beaucoup aussi. Vous avez mis à profit ce temps pour apprendre l'espagnol, pour travailler votre arabe, pour lire les 2500 pages de Vie de Klim Sanguine de Gorky, Anna Karenine, toute la littérature latino-américaine.
J'ai jamais autant lu de ma vie.
Bah, vous n'avez pas chômé. Mais non, mais ce rapport au temps, quand même très intéressant.
Ben, l'unité de temps, pour moi, c'était la visite. Hebdomadaire, voilà. C'était ça l'unité de temps. C'était ça, au lieu de 24 heures, je sais pas quoi, etc., c'était la visite. C'est ça qui ponctuait.
C'était le seul repère temporel.
Oui. C'est le moment où, c'est la rencontre, ce que j'appelais la cérémonie de l'accord, qui se passait entre nous. Et puis, c'est les petites gâteries que les familles apportaient. Parce que la bouffe de la prison, c'est pas terrible. Donc, une fois par semaine, on avait la possibilité de manger des tagines, des choses délicieuses, tout cela, qu'on partageait de façon démocratique. Même trop démocratique, parfois au goût de certains, parce qu'on rassemblait toute la nourriture qui arrivait. Et on tirait au sort vers quelle cellule allait telle tagine, etc. Parfois, même ce qu'apportait votre propre famille, vous ne mangiez pas.
Vous ne pouviez pas le
goûter. Oui, oui. Non, on était des socialistes mortels.
Alors, vous le disiez, Abdelatif Lahabi, votre ami écrivain Ghislain Ripaud, épaulé par quelques soutiens, par exemple Jacques Lang en France, l'a épaulé, a lancé une intense campagne internationale pour votre libération, qui a gagné, qui a obtenu votre libération le 18 juillet 1980, c'est-à-dire un an et demi. Vous avez gagné un an et demi sur les 10 ans de votre condamnation. Vous vous souvenez du jour de votre libération ?
Ah oui, oui. J'ai une mémoire pleine de trous, plus que des trous. Alors, je n'ai aucune mémoire, sauf... j'ai une mémoire très sélective. C'est pour ça que je dis toujours que ma compagne, c'est ma mémoire objective. Donc, je parle toujours sous sa...
sous son contrôle.
Sous son autorité.
Il a fait sourire.
Mais ce jour-là, oui. Oui, je l'ai décrit ce jour. Et même récemment, j'ai écrit un texte pour présenter une réédition de deux de mes ouvrages qui vont paraître...
C'est ça. Rien.
J'ai écrit un texte où j'évoque cela. C'était un moment... Bon... Ça avait une magie particulière. C'est tout. C'est-à-dire, bon... Mais en même temps, bon, comme dans beaucoup de d'expériences dans ma vie, tout cela, il y a toujours un aspect humoristique qui se présente. Bon, je suis sorti de prison, tout cela, je me rends chez moi, je trouve porte fermée parce que ma compagne avait eu la très bonne idée d'aller avec des amis à Casablanca ce soir-là.
Et parce que personne n'était au courant.
Personne
n'avait informé
personne
Jocelyne.
Était au courant. Et moi, j'arrive chez moi, je trouve... Bien, c'est...
Mais, dans votre joli costume de velours vert côtelé.
Ça ressemble à ma vie.
Donc vous êtes allé chez votre frère, le temps que Jocelyne revienne.
Absolument, je suis allé chez mon frère qui n'arrêtait pas de dire « c'est extraordinaire » parce qu'il a un accent de Fès. Le R est prononcé « R ». Il disait « c'est extraordinaire, c'est extraordinaire
ouais. ». Vous l'avez raconté, hein, ça, effectivement, plusieurs fois, mais vous avez aussi raconté, alors là, c'est le côté comique, comme vous étiez petit, un peu comique, mais comme vous l'écrivez vous-même. Mais vous l'avez raconté sous le versant plus du choc de la liberté, après l'expérience
carcérale. C'est après coup, ça.
Vous l'avez raconté après coup. Vous l'avez raconté en 1982, c'est pas si long temps après, dans Le Chemin des Ordalies.
Oui.
Ce texte qui raconte ce que ça fait d'être libre après tant d'années, les sensations, la peur, et même, vous dites, réapprendre à marcher droit et à regarder le ciel.
Oui, bien sûr. J'avais l'impression d'être un nouveau-né, enfin, ou d'être un enfant. Enfin, comment traverser la rue, comment enfin, marcher tout droit, parce que bon, la cour, on tourne en rond. On marche pas tout droit. Donc, il fallait tout réapprendre. Il a fallu retrouver aussi un certain nombre de choses, comme taper à la machine, par exemple, des choses comme ça. C'est ce que j'ai appelé le choc, effectivement, de la liberté. Il y a un dédoublement de la personnalité qui se... Déjà, chez moi, le dédoublement, le double existe de façon naturelle, je dirais. Mais là, dans cette expérience de la liberté, il y a un vrai dédoublement. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est dehors, libre, mais on a encore la tête, le corps n'est pas, il est toujours rivé à l'expérience carcérale.
Et aujourd'hui, Abdelatif Lahabi, vous arrive d'y penser encore, d'en rêver. Est-ce que vous diriez que c'est une expérience qui vous a marqué à vie?
Oui, absolument. Oui. Même si j'aime pas m'étendre là-dessus, bien sûr, les gens qui ont vécu cette expérience-là, y compris l'expérience extrême de la violence, enfin, qui est administrée, je dirais qu'ils sont différents. J'ai rencontré, enfin, quand je rencontre quelques camarades, quelques amis qui ont vécu cela, ou d'autres personnes qui l'ont vécu, mais autrement, à d'autres époques, dans d'autres contextes. Je sais pas, il y a une façon, il y a quelque chose dans le regard, dans l'attitude, dans les gestes, qui font qu'on, bon, on se reconnaît tout de suite. On sait que cette personne a vécu tout cela. Peut-être une douceur aussi. Généralement, oui, je dirais. Une douceur qui s'installe chez les gens après une expérience pareille. C'est-à-dire, je vois dans les yeux de la personne que, bon, nous avons vécu la même chose.
C'est la dernière question que je voulais vous poser, Abdelatif Lahabi. Comment on fait pour sortir de 8 ans et demi de prison où vous avez été broyé et en plus condamné alors que c'était une parfaite injustice, sans haine, avec de la douceur dans les yeux et de la poésie à revendre?
Oui, on découvre, j'ai découvert que la haine est un poison. C'est un poison qui vous détruit d'abord vous-même, avant de détruire la personne sur laquelle elle se porte. Mais vous voyez que la prison aussi, comme expérience, a été, bon, je le dis, quelque part, c'est là où j'ai appris le travail, ce qu'est le travail invisible, le travail que font les femmes et qui n'est pas compté comme du travail social, par exemple, de laver ses habits, de coudre, de préparer à manger, de faire le ménage, de tout cela. Voilà une chose, par exemple. Eh ben, le fait de faire tout cela, je dirais, en forçant un peu le trait quand on se sent un peu une femme, quand on est un homme, un mâle emprisonné. Un mâle emprisonné, il se sent un peu femme. Et ça, c'est une victoire incroyable contre le machisme, qui était notre, j'allais dire, c'était fatal, normal. C'est-à-dire, on est dans cette société dans laquelle on a grandi, qu'on a vécu, et nous a façonné pour devenir des machos, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et la prison, je crois que, en tout cas pour moi, ça a été le début de ma conversion. De ma conversion à la condition féminine. Donc, voilà une victoire pour moi, parce que c'est pas évident. Il m'a fallu, après, beaucoup de temps pour m'en rendre compte, pour que ce sentiment que j'ai eu, etc., se transforme en une pratique réelle au sein du couple.
Il y a un vers qui résume assez bien l'après, il me semble, c'est « Vaincu, je ne me rends pas ». Merci Abdelatif Lahabi. On se retrouve demain pour l'épisode 4. Rester, partir, le double exil. À demain. C'était À Voix Nue avec Abdelatif Lahabi, réalisation Asia Weber, prise de son Hervé Dubreuil, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.